Chapitre 3. Le début du ministère de Jean est indiqué avec grande précision dans les deux premiers versets. Nous apprenons que les choses étaient tout à fait anormales. Le gouvernement était aux mains des gentils, et même en Israël régnait le désordre, car il y avait deux souverains sacrificateurs au lieu d'un seul. C'est pourquoi les appels à la repentance dominent dans la prédication de Jean. Les prophètes d'autrefois avait plaidé avec Israël pour le ramener à la loi transgressée. Jean n'agit plus ainsi. C'est à la repentance qu'il l'appelle les foules. Les Israélites devaient reconnaître que, sur le terrain de la loi, ils étaient perdus, sans espoir, et que leur place était dans la mort, dans les eaux du baptême que Jean prêchait. C'était le baptême de repentance en rémission de péché. S'ils écoutaient Jean et se repentaient, ils étaient moralement prêts pour recevoir la rémission des péchés qu'apporterait celui qui allait venir. Ainsi, le chemin serait rendu droit devant le Seigneur. Remarquons comment cette citation d'Ésaïe parle de la venue de l'Éternel, et comme il est manifeste que cette venue de l'Éternel a trouvé son accomplissement en Jésus. Le verset 5 exprime la même vérité que celle que nous avons vue au verset 52 et 53 du chapitre 1, et au verset 34 du chapitre 2, seulement exprimé d'une façon plus figurée. Le verset 6 montre que puisque celui qui allait venir n'était pas moins que l'Éternel, le salut qu'il apporterait ne serait pas restreint aux étroites limites d'Israël, mais serait annoncé à toute chair. La grâce allait venir, et elle se répandrait dans toutes les directions. Cette grâce est l'un des thèmes particuliers à l'évangile de Luc. Mais Jean ne prêche pas seulement la repentance d'une façon générale, il en fait aussi une question très nette et personnelle. Les foules affluaient vers lui et son baptême était en passe de provoquer leur engouement, presque de devenir une distraction au goût du jour. Les choses se passent exactement de la même façon aujourd'hui. Toute ordonnance religieuse, par exemple le baptême, dégénère très facilement en une sorte de fête générale. Il est évident que Jean ne craignait nullement de blesser ses auditeurs et de perdre sa popularité. Rien ne pouvait être plus énergique que ses paroles rapportées au verset 7 à 9. Il dit très clairement aux gens ce qu'ils sont. Il les avertit de la colère qui vient. Il demande la vraie repentance qui produise des fruits. Il leur montre qu'aucun privilège religieux ne leur servirait, car Dieu allait juger des choses à leurs racines mêmes. La cognée allait maintenant faire son travail, non pas élaguer des branches, mais frapper à la racine pour abattre l'arbre tout entier. Et nous avons là une image très réaliste de ce qui s'accomplira, non pas dans l'exécution d'un jugement extérieur, comme celui qui marquera la seconde venue, mais dans ce jugement moral qui a été opéré à la croix. La seconde venue sera caractérisée par le feu, qui consumera l'arbre mort. La première venue aboutit à la croix, où la sentence judiciaire de condamnation fut promulguée contre Adam et sa race. En d'autres mots, l'arbre a été abattu. Jean réclame des actes, non des paroles, comme fruit pratique de la repentance, et ceci conduit à la question que posent les foules rapportée au verset 10. Les publicains et les soldats suivent avec des questions semblables. Par les réponses qu'ils donnent dans chaque cas, Jean met le doigt sur les péchés particuliers qui marquaient les différentes classes de gens. Quoique les réponses varient, nous voyons pourtant que la convoitise est à la base de tous les maux dont il s'occupe. De toutes les mauvaises herbes qui s'épanouissent dans le cœur de l'homme, la convoitise est peut-être la plus profondément enracinée et la plus difficile à arracher. Comme le pissenlit, ses racines sont très profondes. La véritable repentance conduit à une conversion véritable, abandon de la voie de péché. Et ceci, Jean le savait. Ainsi, Jean non seulement prépare le chemin du Seigneur, mais, en toute fidélité, il dirige les regards vers lui, sans laisser un seul instant les foules avoir une haute opinion de lui-même. Il déclare qu'il n'est que le plus humble des serviteurs de la merveilleuse personne qui allait venir. Si humble qu'il n'était pas digne d'accomplir ce très humble service de délier la courroie de ses sandales. Celui qui allait venir était si grand qu'il baptiserait de l'Esprit Saint et de feu. de l'Esprit-Saint en bénédiction, de feu en jugement, comme l'explique clairement le verset suivant. Nous remarquons de nouveau ici qu'il n'y a pas encore une différence très nette entre les deux venues. Il y eut un baptême de l'Esprit, rapporté en acte 2, comme résultat de la première venue, mais le baptême de feu, selon le verset 17, est réservé pour la seconde venue. Luc nous rapporte donc le fidèle ministère de Jean, puis rapidement l'écarte du récit pour céder la place à Jésus. L'emprisonnement de Jean n'eut pas lieu à ce moment-là, mais Luc abandonne l'ordre historique pour placer devant nous l'événement dans un ordre moral et spirituel. Le ministère de Jean, semblable à celui d'Élie, s'efface devant celui qui allait être le vase de la grâce de Dieu, qui fut baptisé et ainsi introduit dans son ministère. Il ne nous est même pas dit ici que c'est Jean qui baptisa Jésus, mais il nous est dit que celui-ci priait quand il fut baptisé, ce qui est mentionné nulle part ailleurs. Cet évangile insiste d'une façon évidente sur la perfection de la nature humaine de notre Seigneur. La grâce envers l'homme appartient à celui qui est l'homme parfait. Le tout premier caractère de perfection dans l'homme est celui de la dépendance envers Dieu. La prière est une expression de cette dépendance, et nous allons voir dans cet évangile combien de fois il est rapporté que Jésus prie. Nous en avons ici le premier cas. Sur cet homme dépendant en prière, le Saint-Esprit descend sous une forme corporelle, comme une colombe, et en même temps la voix du Père déclare que celui-ci est son Fils bien-aimé, l'objet de tout son plaisir. De la sorte est enfin révélée la vérité de la Trinité. Un instant, on peut voir l'Esprit, on entend le Père, et le Fils est là, sang et chair, et par conséquent, on peut non seulement le voir et l'entendre, mais aussi le toucher. C'est une chose merveilleuse que le ciel soit ouvert et toute son attention concentrée sur un homme qui prie sur la terre. Mais en cet homme qui prie, Dieu allait se faire connaître, car en lui toute la plénitude s'est plu à habiter. Colossiens 1, verset 19. Le Père ayant ainsi proclamé que Jésus est son Fils bien-aimé, Luc introduit maintenant sa généalogie par Marie pour montrer comme il est réellement aussi homme. Matthieu fait remonter ses origines jusqu'à Abraham, qui a reçu la promesse, et à David, qui a reçu la royauté. Luc fait remonter Jésus jusqu'à Adam et à Dieu, car la question est simplement sa nature humaine, transmise par Marie, Joseph étant seulement son père présumé. Jésus est véritablement homme, quoique fils de Dieu. Il est le second homme, le Seigneur venu du ciel, celui qui apporte la grâce de Dieu en surabondance.